chers amis, bienvenue dans Planche, Case et Bulle, où aujourd'hui je ne serai pas rejoint par Christol Seyec parce que j'ai le plaisir de recevoir Yvon Bertorello. Bonjour Yvon.
Bonjour Richard et merci de me recevoir.
Alors, je vous reçois parce que vous avez une production totalement pléthorique, mais ça ne suffirait pas à vous recevoir. Non seulement c'est pléthorique, mais en plus c'est bon, donc c'est assez agréable. Et vous avez sorti notamment récemment deux bandes dessinées en tant que scénariste sur Auguste Escoffier, maître de la cuisine moderne, et Extrême, l'histoire du groupe militaire de haute montagne, donc sans parler des bandes dessinées que vous préparez. Certaines sont scientifiques, certaines sont du domaine de la fantaisie, certaines sont du domaine de la géographie. Certaines sont du domaine historique, votre série sur Juste parmi les nations, par exemple. Un scénariste de bande dessinée, aujourd'hui, touche à n'importe quel genre, ou bien vous réussissez, vous, à trouver une espèce de trame qui vous permet de réunir à la fois une histoire d'un maître-queue du 19e, 20e, et une histoire de militaire en train de grimper l'Himalaya?
Alors ça, c'est une question importante. Normalement, les scénaristes sont spécialisés dans un domaine bien particulier. Et la réputation que je suis en train de me faire, c'est d'être très éclectique. Alors, on peut dire quand même l'essentiel de mon travail, c'est l'histoire, le domaine mémoriel et historique, parce que ça m'intéresse à titre personnel. Et je trouve qu'il y a un manque énorme chez nous, surtout une histoire authentique, objective et vraie. Parce que souvent, l'histoire est tirée, est transformée. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre en lumière des événements, des faits importants, qui me semblent importants en tout cas, pour porter à la connaissance du grand public. Parce qu'à travers la BD, on touche un très large public. Ce n'est pas destiné à une classe particulière, c'est destiné à toutes les classes sociales, à toutes les générations. C'est ça l'intérêt de la bande dessinée. Et donc, même si je fais essentiellement des ouvrages historiques, comme vous l'avez vu, je viens de sortir un biopic, j'ai sorti un biopic sur Pompidou l'année dernière. C'est pas forcément...
Nous en avions parlé à cette antenne, si je ne me trompe.
Exactement. Ensuite, là, je prépare d'autres biopics. Et là, je viens de sortir avec Cédric Fernandez, un biopic sur Auguste Escoffier, le célèbre gastronome qui a fait connaître la gastronomie française, à l'international.
Alors, on apprend mille choses, et notamment le fait que Escoffier est en cheville avec celui qui va diriger le Ritz, qui s'appelle Ritz d'ailleurs, puisque à l'époque d'ailleurs l'hôtel qu'il dirige n'est pas l'hôtel Ritz, puisqu'il l'ouvrira après. Et on creuse un peu. Et Escoffier est élevé principalement par sa mère, sa grand-mère, ses tantes. Il est marmiton à une époque où les brigades de cuisine ne sont pas inventées. Et donc on voit apparaître ce jeune talent. Vous vous inspirez beaucoup des mémoires d'Escoffier qui raconte dans ses mémoires, évidemment, comment il a commencé. Et le découpage est très dynamique. C'est à la fois Escoffier en train d'écrire ses mémoires, Escoffier jeune avec les mémoires qui passent en voix off, en narratif. Là aussi, vous avez vraiment objectivé la vie de ce héros de la cuisine.
Alors, généralement, c'est difficile quand on fait un biopic parce qu'il faut lire beaucoup de choses, il faut se documenter. Pour Escoffier, ce fut assez facile parce que lui-même, je sais pas, il avait prévu les choses peut-être. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, une autobiographie qui a été un peu retravaillée ensuite par son fils quelques décennies plus tard. Mais c'est réellement lui qui l'a écrite, cette autobiographie. Et on apprend tout. De sa naissance jusqu'à presque sa mort, quelques semaines avant sa mort. Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et on s'est dit avec mon co-auteur, c'était pas la peine d'aller puiser et chercher davantage. Il y avait suffisamment de choses dans son autobiographie. Rien de tel que d'aller prendre dans l'autobiographie, puisque notre intérêt, notre objectif, c'était pas de porter une critique, c'était de dire les choses telles qu'elles se sont passées, telles que se sont déroulées. Donc on a suivi, on va dire, à la lettre son autobiographie, avec quelques petites choses, touches personnelles. Mais grosso modo, on a, les éléments que nous avons, ce sont les éléments de son autobiographie.
Alors, cette autobiographie fait apparaître un personnage curieux, généreux, sans doute très conscient de son talent et très désireux de lui donner l'extension la plus large.
Naturellement, avant de devenir un chef reconnu, un gastronome, ce fut d'abord un adolescent dans une famille profondément provinciale, catholique. Ce sont des gens issus vraiment de la Provence. Ils ont été très marqués par la culture provençale, par le christianisme. Ils ne s'en cachent pas, hein, puisque son humanisme, ce n'est pas un humanisme athée, c'est un humanisme incarné dans l'évangile, dans le christianisme. C'est important parce qu'aujourd'hui, on gomme cet aspect-là et moi, je ne manque pas de le mettre en valeur. Dès le début, il a été habitué à se soucier des autres en voyant sa grand-mère, ses parents. Ce sont des gens profondément honnêtes, très droits. Et il a vu et la cuisine, il lui a pris goût. Il a pris goût à la cuisine en regardant sa grand-mère. C'est ça, les premiers balbutiements de la cuisine, c'est à travers sa grand-mère. Et ensuite, il est parti à l'étranger. C'est-à-dire, il a traversé la rivière Le Var, puisqu'il était en Provence, et il est passé à l'étranger, c'est-à-dire dans le comté de Nice, ou si vous préférez, dans le royaume de Piémont-Sardaigne. Actuellement, ça correspond au département des Alpes-Maritimes, l'ancien comté de Nice et une partie de l'ancien département du Var. Enfin, c'était pas assez, c'est pour ça que le Var ne coule plus dans le département du Var. Et puis il est allé donc apprendre les balbutiements de la cuisine chez son oncle, qui avait ouvert un restaurant à l'étranger. Ça s'appelait le restaurant français Place Masséna, où il y avait l'aristocratie anglaise et russe qui venait se divertir l'hiver sur la Côte d'Azur. C'est comme ça qu'il a fait ses premières armes. Et ensuite, il est allé à Paris, il a fait plusieurs établissements. Et puis, la rencontre extraordinaire de sa vie, c'est la rencontre avec César X. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. C'est impossible de parler de Auguste Escoffier sans évoquer César X. César X, il a à peu près le même parcours qu'Escoffier. Il vient d'un milieu simple, valaisan. C'est une famille catholique de germanophones au nord de Sierre, dans le Valais. Et il est parti à Paris comme garçon de café. Ah, je vous la fais courte. Et il a réussi à amasser une certaine fortune. Et puis il est arrivé à Monaco. Il a créé le Grand Hôtel. Il y a eu la rencontre avec Escoffier. Il l'a nommé Escoffier chef du Grand Hôtel. Actuellement, c'est la poste de Monte Carlo. Et puis ensuite, il y a eu plus de 20 ans de collaboration entre les deux hommes. Une amitié profonde, des convictions profondes. Et ils ont créé le Savoy à Londres, évidemment ce qu'on appelait le Ritz à Paris, avec l'aide de M. Marnier l'Apostole, propriétaire et fondateur du Grand Marnier. Donc c'est plus de 20 ans de travail, d'amitié en tous les deux. On ne peut pas évoquer Ritz sans évoquer Escoffier et vice-versa.
Alors, Ritz et Escoffier inventent l'industrie de luxe de l'hôtellerie, ou plutôt l'industrie de l'hôtellerie de luxe, avec donc une débauche de moyens, évidemment une espèce de mise en scène du repas, la gastronomie comme moment social, le moment extérieur social qui est neuf à l'époque. Voilà, d'habitude, on allait bien dîner chez les uns et les autres, mais le fait de se montrer dans une salle à manger d'un hôtel n'était pas forcément ce moment emblématique qu'il a pu devenir. Dans votre bande dessinée, vous mettez en scène la manière dont Escoffier profite de sa position pour donner les restes aux pauvres, notamment quand il est à Londres, aux petites sœurs des pauvres.
Effectivement, c'est l'un des aspects d'Escoffier. Encore une fois, on ne parle d'Escoffier que sous l'aspect gastronomique, de chef, d'organisateur, le créateur des brigades, etc. Ça, c'est vrai. Mais il y a un autre aspect qui est très important dans sa vie. Il le dit lui-même dans son autobiographie. Il aimait les autres et son éducation profondément chrétienne l'a obligé à faire des actes concrets. Et à Londres, il s'est aperçu que dans les restaurants de luxe, les hôtels de luxe ont gaspillé la nourriture. Et donc, il a décidé que le surplus, pas les restes des assiettes, évidemment, mais le surplus, serait donné aux petites sœurs des pauvres pour les indigents de Londres. C'est ce qu'il a fait pendant des décennies. C'est ce qu'il a fait pendant des années.
Jusqu'à ce qu'il s'en aille, et les pauvres de Londres ont beaucoup moins mangé une fois qu'Escoffier est reparti. Il y a quelque chose qui n'est pas dans votre autobiographie, inspirée de l'autobiographie d'Escoffier, c'est le fait qu'ils ont été chassés du Savoy, si je ne m'abuse, Ritz et lui, pour prétendue malversation.
Alors, on ne l'évoque pas dans la BD parce qu'en fait, il n'y a pas de fondement réel. Il y a eu une histoire, on l'a accusé, mais après vérification, tout ça, c'est faux. Je pense qu'il y a eu des jalousies contre Il y a des jalousies, il y a eu des jalousies contre le chef et on ne l'évoque pas parce qu'il n'y avait aucune preuve de tout ça.
Voilà, non, c'est un coup des Anglais, une fois de plus, ce sont vraiment des gens
méphitiques. C'est la perfide Albion, voilà. La perfide Albion qui est passée par là.
On n'en parlera jamais assez. Deux Français à Londres, c'était trop pour eux. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est le dessin qui accompagne cette histoire et parfois absolument épique. Il y a deux ou trois scènes de la guerre de 1870 qui sont magnifiques. Il y a la manière dont Escoffier met en scène la création de la pêche Melba, et donc d'ailleurs des plats qui sont encore connus aujourd'hui. On ne sait plus que c'est Escoffier, mais voilà, Escoffier pose les bases d'une gastronomie française qui a en fait traversé des décennies.
Alors effectivement, il a posé les bases de la cuisine moderne, de la gastronomie moderne et internationale. Tout ça s'est résumé dans son fameux guide culinaire. Et les plats, puisque vous y faisiez allusion à l'instant, certains de ces plats, de ces desserts plutôt, porte le nom de ravissante jeune femme, parce qu'il aimait beaucoup les jeunes femmes. Vous avez la mademoiselle Melba, qui était une cantatrice australienne qui faisait une tournée en Europe. Il a demandé son autorisation pour donner le nom au dessert. La même chose pour la poire Belle-Hélène, pour la crêpe Suzette, enfin... Tous les desserts auxquels il a attribué un nom, ce sont des noms de jeunes femmes qu'il a rencontrées, qu'il a croisées dans sa carrière.
Alors, et à côté de ça, il invente aussi une espèce de publicité gastronomique absolument remarquable. Il crée un annuaire de la gastronomie et il a cette idée folle. On a l'impression en fait d'avoir des projets là, du 21e siècle par leur démesure et leur caractère international. Comme Escoffier forme des cuisiniers français, ces cuisiniers évidemment se font engager dans les meilleurs hôtels dans le monde entier. Et il a l'idée que tous les cuisiniers qu'il a eu à un moment donné entre les mains vont cuisiner le même repas, servir le même jour sur l'intégralité du globe. Enfin, partout où ils sont.
Vous faites allusion au fameux dîner d'Épicure. C'est lui qui a eu l'idée d'organiser un dîner qui serait donné en même temps dans le monde entier. En tenant compte du décalage horaire, bien évidemment, plusieurs milliers de personnes, déguster ce même repas dans le monde entier. Et actuellement, ça a lieu tous les 5 ans. Et cette année, on est chanceux. Nous sommes dans l'année des dîners d'Épicure. Donc, il y en a le même dîner, le même menu sera exécuté dans le monde entier en même temps.
Avec sans doute encore plus de restaurants qu'à l'époque d'Escoffier. Parce que ce dîner d'Épicure, quand il le lance, on est au tout début du XXe siècle.
Oui, mais quand même, on parle de 5000 personnes, ce qui est énorme pour l'époque. Ouais. Sans les réseaux sociaux, c'était le tout début des téléphones. Enfin, c'était incroyable pour communiquer. Il a organisé ça et puis ça s'est développé un peu partout. Mais il faut revenir sur un aspect important aussi, vous y avez fait allusion. Escoffier, il a puisé son avant-gardisme, ses découvertes à travers l'expérience militaire. Parce que l'armée, eh bien, on ne peut pas cuisiner comme on pourrait le faire chez soi. Donc il faut que ce soit méthodique, organisé. Et il a appris cette méthode, la méthode militaire, la rigueur militaire dans la préparation des plats lui a servi. C'est comme ça qu'il a imaginé les brigades. C'est copié sur le système militaire, en fait, hein, avec une organisation bien claire, avec les entrées, les chauds, les desserts. Tout ça, c'était les sauces, très, très bien organisées. Et c'est un peu sur le modèle de la rigueur militaire.
Alors, il a réussi, donc au-delà de toute espérance, voilà, c'est vraiment un cuisinier planétaire, son nom est célèbre, son livre de recettes fait école. La bande dessinée se termine sur un passage, quelques pages, que j'ai trouvé à la fois aimable et surprenante. Brusquement, Stéphane Bern débarque et il nous fait visiter, page après page, une série de fabriques d'aujourd'hui, le chocolat Bonnat, tel vin, tel vignoble, les restaurants qui perpétuent la tradition d'Escoffier. On a l'impression d'une édition un peu sponsorisée, en fait.
On a eu l'idée de proposer à Stéphane Bern de s'associer au projet parce qu'il a lui-même tourné un secret d'histoire sur Escoffier, sur Carême, sur d'autres cuisiniers, mais c'est quand même essentiellement sur Escoffier. Et donc, ça avait du sens, puisqu'il est passionné, comme tout le monde le sait, par l'histoire. Et on s'est demandé comment l'introduire. Bien, on s'est dit, à travers un fil rouge d'un personnage qui nous ferait découvrir des produits de qualité du terroir français. Alors, ce n'est pas un catalogue de produits, encore moins de réclames, mais on a mis des produits que Escoffier a utilisés dans ses recettes. Par exemple, le chocolat Bonnat, il est cité de façon claire dans le guide culinaire d'Escoffier. Et c'est la même famille, le même nom dans les mêmes bâtiments à Voiron, auprès de la Chartreuse. C'est l'un des meilleurs chocolats de France, si ce n'est le meilleur. C'est pour ça qu'on les a associés, que ce soit les truffes, le vin. Alors on aurait pu en mettre d'autres, mais on a fait un certain choix parce qu'on n'avait pas la place. L'objet premier de cette bande dessinée, c'est un biopic sur Escoffier. On a mis en exergue quelques produits du terroir français.
Voilà, et donc c'est là où on apprend que Escoffier a aussi collaboré avec Monsieur Cube ou Monsieur Magie, pardon, à améliorer la recette donc de ces bouillons cubes.
Exactement, et toutes ces choses-là, il les a développées, il les a imaginées pendant ses missions militaires, guerre de 70, parce qu'il fallait conserver la nourriture, d'où les conserves, il fallait inventer les potions qui permettaient de faire monter assez facilement les soupes. Enfin, et il a eu l'idée de faciliter le travail de la ménagère, quoi, de la cuisinière. Oui, effectivement, c'est lui qui est à l'origine, avec Magie, de cette potion miraculeuse pour les cuisinières.
Donc, on se rend compte que Escoffier est à la fois dans notre imaginaire et dans nos vies, et c'est tout à fait aimable. Bon, c'est le moment, chers auditeurs, de vous rappeler que vous êtes sur Radio Courtoisie. C'est une radio associative. Vous êtes des centaines de milliers à nous écouter chaque semaine, 1,5 million, tous canaux confondus. Donc, merci. Vous êtes un peu moins de 20 000 à nous donner. Donc, si jamais on pouvait réduire cet écart incompréhensible entre l'enthousiasme avec laquelle vous venez et la sagesse avec laquelle vous gérez votre argent, voilà, n'hésitez pas, 2 euros, 5 euros, voilà, 10 pour les plus généreux. Voilà, si vous êtes quelques milliers à nous donner, ne serait-ce que 5 ou 10 euros, Radio Courtoisie est tranquille pour la fin de l'année et sans doute pour l'année suivante. Dans vos bandes dessinées, donc, il y a toujours ce fondement réel, cette volonté de raconter des histoires vraies, avec des dessinateurs très différents, au style réaliste, mais pas systématiquement du réalisme le plus pointilleux. Dans la bande dessinée que vous avez consacrée, enfin, à laquelle vous avez collaboré en tant que scénariste, consacrée au groupement militaire de haute montagne, le GPHM, là, il y a un dessinateur qui nous propose des panoramas absolument superbes, des points de vue stupéfiant sur des alpinistes en train de gravir des parois à pic, et on a l'impression que lui a véritablement travaillé à l'ordinateur avec des photographies qu'il a très très bien retravaillées et dont il a unifié et les couleurs et le degré de détail.
Eh bien, absolument pas. Incroyable. C'est un vrai travail à la main. Absolument pas des photos retravaillées sur ordinateur. Et pourquoi l'a-t-on choisi ? Parce que Bruno Pradel, il est à la fois coloriste, mais il est aussi dessinateur. Jusqu'à présent, j'avais collaboré avec lui uniquement sur le plan de la couleur. Il a colorisé des dizaines d'albums, il a aussi réalisé des dessins, il est aussi dessinateur. Et comme j'ai appris qu'il avait été alpin pendant son service militaire, qu'il connaissait très bien le milieu de la montagne, comme moi-même, un ancien chasseur alpin, eh bien, on s'est dit que c'était tout naturel de lui proposer d'être le dessinateur de cet album. Parce qu'il connaissait il sentait les choses, il connaissait les lieux.
Là, j'avoue que l'histoire est évidemment tout à fait intéressante. Donc, ce groupe de militaires français...
C'est une force spéciale. Hein.
Voilà, fondée à Chamonix dans les années 70.
Elle a été fondée il y a 50 ans. Elle comporte 50 membres, c'est très réduit. Et il relève à la fois directement de l'état-major, de la division alpine. Enfin, c'est un peu compliqué leur structure. C'est une force spéciale basée à Chamonix. Elle est hébergée par l'EMHM, l'école militaire de montagne. Et nous parlons du GMHM, le groupe militaire de montagne. Et cette année, on fête les 50 ans. C'est eux qui nous ont contactés. Par les réseaux sociaux, vous voyez, ça sert à quelque chose de temps en temps. Et on a échangé, on s'est entendu. Et puis, on a collaboré pendant presque 2 ans. Ça a été un peu dur, parce que les militaires, quelquefois, ils sont un peu stricts. Ils coupent les cheveux en 4. Mais vous voyez, le résultat est bon.
Le résultat est stupéfiant. Il y a un côté très narratif. On progresse étape par étape. On sent un exposé effectivement maîtrisé. Mais les images sont stupéfiantes, évidemment. Et ce que vous racontez, vous et vos partenaires artistiques dans cette aventure, ce sont des exploits extraordinaires. Des gens qui partent, qui ouvrent des voies sur des sommets connus ou même inconnus, qui sont capables de grimper dans les conditions les plus extrêmes. Alors pourquoi est-ce que des militaires le font ? on l'apprend, c'est parce que ça permet de tester des matériels, ça permet de tester la résistance humaine, ça permet de, en fait, de vérifier comment se comporte l'homme en situation extrême.
Et parce que la France veut être présente partout aussi. Sur les mers, dans les airs, et puis sur les montagnes. Himalaya, pôle sud, pôle nord. C'est la France, par principe, doit être présente partout.
C'est le moment de citer une petite parenthèse. Donc, il y a une extrêmement bonne exposition en ce moment au musée de l'armée sur 300 ans d'exploration militaire. En la voyant et en lisant votre album, je me disais que, d'ailleurs, vous aviez matière à parler de l'armée dans l'espace, l'armée dans les mers. Enfin,
Mais nous, nous y avons pensé avant que l'exposition soit installée. Hein.
Oui, tout à fait. Deux ans pour monter l'album, 3 ans pour monter une exposition, les projets ont concouru en parallèle. Et ben voilà. Si aujourd'hui vous lisez cette bande dessinée sur le groupement militaire de haute montagne, ben n'hésitez pas à aller voir l'exposition Exploration. Ce qui a été le plus amusant pour vous, c'était de découvrir ces histoires extraordinaires, c'était d'essayer de résumer 50 ans en quelques pages.
Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis un ancien chasseur du 11e BCA, Barcelonnette. Je connais très bien le milieu militaire. Je suis aussi d'une famille de montagne, que ce soit du côté maternel, on est des Hautes-Alpes, du Dauphiné, que du côté piémontais. Je ne dis pas italien, piémontais. Hein. C'est une nuance importante. Nous sommes vraiment des gens de la montagne, absolument. Donc la montagne, ça me passionne. Et c'était un vrai, vrai plaisir de réaliser cet album. Alors il y a évidemment, vous l'avez cité, Bruno Pradel, mais aussi Eric Stoffel, avec qui j'ai collaboré pour de nombreux albums sur des sujets divers également. Donc on est un trio qui a bien fonctionné. Et d'ailleurs, on a d'autres projets ensemble.
Bon, eh ben, tant mieux. Et j'espère, franchement, pour moi, Pradel, dessinateur, ça a été une découverte. J'ai trouvé que son travail était remarquablement précis et intelligent. Ben, je suis confus d'avoir pu imaginer qu'il utilisait la photographie. Et en même temps, il y a d'excellentes bandes dessinées où, justement, par la grâce de l'infographie, on réussit à transcender le matériel de base.
Mais je vous vois venir, l'intelligence artificielle
non, pas du tout.
Ne va pas supplanter le talent, le graphisme, la bande dessinée.
Ça me paraît compliqué. Alors, la dernière fois que j'ai vu des bandes dessinées générées par intelligence artificielle, c'était de la propagande russe sous forme de comic book destiné aux Ukrainiens, où systématiquement les Ukrainiens étaient des crapauds et les Russes des gens valeureux. Et donc c'était une série qu'on peut télécharger d'ailleurs, donc de comics pas particulièrement surprenant. On a, avec ces deux albums, vraiment deux facettes de votre talent, c'est-à-dire le fait de nous faire rentrer dans une histoire personnelle où on est emporté par une personnalité exceptionnelle, ou au contraire, le fait de nous faire comprendre un groupe. Moi, quand je lis Extrême, donc l'histoire du groupe militaire de haute montagne aux éditions Plein Vent, j'ai l'impression de retrouver votre série sur les Justes, où à chaque fois, vous présentez plusieurs personnages qui sont plongés dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale et donc qui essayent de sauver les Juifs qui croisent leur route. Quand je lis Escoffier, ça me ramène plutôt du côté des bandes dessinées hagiographiques auxquelles vous avez pu participer, comme Le Percevin. Voilà. D'un côté, on a la ligne Maginot avec le groupe militaire de haute montagne, et de l'autre, en fait, tous ces personnages un peu extraordinaires. Et je trouve que vous réussissez aussi bien dans la mise en scène de l'aventure chorale que dans l'aventure singulière.
Merci, vous êtes très flatteur. Donc, il y a trois aspects, c'est vrai, le mémoriel, l'historique et le biographique. C'est les trois éléments qui nous permettent de développer des albums avec mes co-auteurs. On a fait une exception, c'est la série jeunesse chez Dargo, Les Mondes d'Arven. C'est une BD sur les énergies renouvelables et naturelles, mais je précise rapidement qu'on ne parlera pas des éoliennes, je vous rassure.
Ouf.
Voilà, nous sommes absolument opposés à ça. C'est essentiellement la géothermie, donc l'eau chaude naturelle. Il y a tellement de choses à développer autour de la géothermie. Donc on a le quatrième volume, sortira chez Dargo bientôt.
Les deux albums dont on a parlé sont aux éditions Plein Vent, comme beaucoup de vos bandes dessinées, par exemple la série sur la ligne Maginot. Le scénariste se retrouve avec les mémoires d'Escoffier, avec une tonne de documents sur la Seconde Guerre mondiale. On lui dit, et tire-en 48 pages. C'est un métier de sacrifice, en fait.
Effectivement, le problème est là, c'est qu'on résumait, aller à l'essentiel en 48, 54 planches, c'est le problème de la bande dessinée. Les connaisseurs ne vont rien apprendre. Hein. Ils vont être déçus même. La BD est destinée au grand public. Et donc, c'est de la vulgarisation au sens noble du terme. Et on essaie de donner les éléments essentiels. Mais nous-mêmes, nous sommes déçus de nos albums. Forcément. On reste sur sa fin.
Alors, moi qui ne suis ni un spécialiste de l'alpiniste et encore moins du groupe militaire d'haute montagne et encore moins d'Escoffier, je fais partie du grand public voilà, qui a appris des choses. Et surtout, on est une fois plus emporté par le caractère enthousiaste. En fait, à chaque fois, on sent que vous aimez le sujet que vous traitez. Vous n'êtes pas là pour porter un regard critique et acerbe sur la matière. Au contraire, vous êtes là pour faire partager l'enthousiasme qui a été le vôtre.
Oui, moi j'aime bien être positif dans ce que je fais. Il y a assez de gens qui font des choses mauvaises dans une intention mauvaise et négative. Il y a tellement de belles choses à raconter que ça suffit largement pour passer toute une vie à écrire et à dessiner.
Alors, vous avez parlé de vos projets. Alors, moi, la série sur la ligne Maginot, j'ai adoré. Il y a deux tomes de paru. Il y en a un troisième.
Le troisième est en cours et nous, on a pris le parti de suivre l'histoire de la ligne Maginot. La ligne Maginot, contrairement aux idées reçues, n'a pas débuté en Alsace, dans l'Est, mais elle a commencé au bord de la mer, à Menton. Pour des raisons évidentes, Mussolini venait de prendre le pouvoir en 1922, c'est pour ça, et on remonte. Donc on suit le tracé historique. Le troisième tome va se dérouler au col de l'Arche, dans les Alpes-de-Provence, et puis à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Qui dit ligne Maginot dit Valo-Alpino, en tout cas dans la partie alpine, évidemment. Le Valo-Alpino, c'est l'équivalent de la ligne Maginot en Italie. Donc ça, le tome 3 se prépare. Les Justes continuent. On va faire un troisième tome à Brive-la-Gaillarde. Et puis, il y a d'autres projets qui... Ah, vous voyez, le Monde Romain aussi, on prépare un autre tome. On a commencé une autre série sur la résistance dans les Alpes-Maritimes. Le tome 1, c'est dans les Paillons. Et puis, on a un autre projet qui va probablement se signer rapidement, mais on ne peut pas encore en parler, c'est un peu secret.
Eh ben, j'attendrai de recevoir l'album et on pourra en parler avec les auditeurs de Radio Courtoisie.
Parmi les nouveautés, quand même, puisque c'est signé, j'ai le droit d'en parler. On fait une série, on est sur Radio Courtoisie.
Un album unique.
On fait un album unique sur le royaume des deux Siciles. La BD est en cours, elle sortira en 2027, toute l'histoire des Bourbons-Siciles.
Eh bien, parfait. Disons que, avec un peu de chance, les gens confondront avec Bourbon-Parme, mais beaucoup l'achèteront. Merci mille fois, Yvon Bertorello, pour ces deux albums, donc GPHM et Escoffier, aux éditions Plein Vent. Et à bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci.